Chapitre 9. Où le mystère, au lieu de s'éclaircir, semble au contraire augmenter encore. Ce que Chantecoq, toujours si prudent dans ses déclarations, et même si avare de ses paroles, n'avait pas voulu dire même au directeur de la police judiciaire, nous allons le révéler dès à présent à nos lecteurs et à nos lectrices. Il est indispensable pour la clarté de ce qui va suivre que tous ceux qui nous font l'honneur de s'intéresser à ce récit soient dès à présent au courant de ce qui se passait dans l'esprit du roi des détectives. Celui-ci maintenant n'avait plus aucun doute. Pour lui, le coupable n'était autre que le professeur Courtil. Et voilà sur quoi il s'était appuyé pour établir en lui cette conviction. M. Lérigny, en lui affirmant que depuis le matin jusqu'à 20 heures, le tueur de femmes n'avait commis aucun assassinat, avait attiré son attention sur ce fait que cet arrêt dans le crime correspondait exactement au moment qu'il avait passé en compagnie du professeur Courtil. Et ce qui achevait d'étayer en lui cette opinion, c'était que les attentats avaient recommencé presque aussitôt après qu'il s'était séparé du savant. D'autre part, se remémorant les renseignements que Météor lui avait apportés sur l'étrange chimiste de la rue Bonaparte, il s'était tenu le raisonnement suivant. Courtil a été trompé par sa femme, qu'il adorait et qui l'a fait disparaître en l'empoisonnant. N'ayant rien à redouter de la justice, soit qu'il lui fait absorber à la coupable un toxique qui ne laisse dans l'organisme que des traces, des lésions que l'on peut attribuer fort bien à une maladie naturelle, soit que sa situation personnelle le mit au-dessus de tout soupçon, il a pu en toute sécurité accomplir ce qu'il considérait comme une œuvre de justice. Mais bientôt, bourrelé de remords, il a voulu chercher l'oubli dans l'isolement, dans la solitude, c'est-à-dire qu'il s'est volontairement isolé dans cette petite villa bretonne de Cosporden, où, afin d'occuper son esprit, il s'est livré aux travaux de laboratoire vers lesquels le poussait son réel génie. Et c'est à ce moment, surtout, qu'il a découvert le procédé qui consiste à rappeler à la vie ce qui, tout en ayant les apparences de la mort, sont néanmoins uniquement plongés en léthargie ou en catalepsie. Mais peu à peu, à force de vivre ainsi replié sur lui-même, malgré les puissants dérivatifs auxquels il avait recours pour délivrer son esprit d'un atroce souvenir qui le hantait toujours, il en est arrivé ainsi, peu à peu, à perdre, sinon toute sa raison, mais tout au moins la majeure partie de son contrôle de lui-même. Et une idée fixe s'est installée dans son cerveau, celle de devenir le justicier implacable de toutes les femmes adultères. Tournant bientôt à la monomanie, cette idée a fait d'un homme qui aurait pu être un des plus illustres bienfaiteurs de l'humanité une sorte de démon dangereux pour tous, qui ne relève pas de la justice, mais de la maison de santé. Et lorsqu'il a trouvé la formule de sa mortelle piqûre, il est rentré à Paris. Mais pourquoi donc ne s'en est-il pas servi tout de suite? Pourquoi a-t-il attendu plusieurs années pour entamer la série de ses sinistres exploits? Ah, lui seul pourrait nous le dire. En tout cas, ce qui importe avant tout pour l'instant, c'est d'abord de l'arrêter dans son œuvre de mort, et ensuite de s'emparer de sa personne, et de voir encore s'il relève de la cour d'assises ou du cabanon. Comme Chantecoq achevait de prononcer ces mots, un jeune agent en uniforme, la lèvre supérieure ornée d'une moustache à l'américaine, pénétrait dans le studio sans s'être fait annoncer. À sa vue, le directeur de la police judiciaire ne put retenir un mouvement de surprise. Tout de suite, le roi des détectives lui expliqua cette apparition aussi brusque qu'inattendue en disant « Eh bien, c'est notre grand ami, Météor, auquel j'ai ordonné de retirer ce costume, grâce auquel il va pouvoir, tout à l'heure, faire le guet pendant que nous agirons. » Et il ajouta « Mon cher Lérémy, je vais vous conduire jusqu'à ma salle de bain, afin que vous puissiez vous enduire de l'onguent dont je viens de vous parler il y a quelques instants. » Entendu, acquiesçait le haut fonctionnaire, dont la confiance envers Charles de Coq était telle qu'il eut facilement suivi jusqu'au bout du monde. Alors, tous deux quittèrent le studio. Mais sur le seuil, le grand limier se retournait et disait à son secrétaire « Nous attendons, va faire les 100 pas devant le 37 de la rue Bonaparte. Nous te rejoindrons environ dans 1 heure. Prends un taxi et va vite, car je ne sais si tu n'auras pas à glaner quelque chose d'intéressant. » « Entendu, patron ?» obtempéra aussitôt Météor. En voyant disparaître le détective privé et le policier officiel, il grommela entre ses dents. L'union sacrée, c'est beau tout de même. » Vers 10 heures du soir, Chantecoq et M. Lérémy sonnaient à la porte du professeur Courtil. Tout d'abord, personne ne leur répondit. Chantecoq fit à l'oreille de son compagnon « Ils sont pas encore couchés, car j'ai vu de la lumière, et tout à l'heure, Météor vient de nous dire qu'il avait aperçu, il n'y a pas 10 minutes, derrière les rideaux de sa fenêtre, la silhouette du professeur. Donc il suffit de carillonner un peu fort, car Mme Scolastique, ainsi que j'ai déjà pu m'en apercevoir, a l'oreille un peu paresseuse, et la chambre du professeur doit se trouver tout au fond de l'appartement. » Chantecoq se mit à carillonner avec insistance. Mais la porte ne s'ouvrait toujours pas. Lérémy fit observer. Ben, « Peut-être sommes-nous repérés. Ne veut-on pas nous ouvrir ?»« Non, ça m'étonnerait, » dit le grand limier. « Il doit y avoir d'autres raisons à cela. » Au même instant, un coup de sifflet montait, strident, de la rue, se répétant 3 fois de suite. Chantecoq fit aussitôt « C'est un signal de météore. Cela veut dire qu'il se passe quelque chose de très important en bas. Descendons vite. » Tous deux dégringolèrent l'escalier. Après avoir franchi la porte de l'immeuble, ils se trouvèrent en face de Météore, qui leur dit aussitôt avec vivacité « À peine y étiez-vous monté chez le professeur Courtil que j'ai vu un homme à barbe blanche et répondant entièrement au signalement du tueur de femmes sortir de la maison et monter dans une voiture de maître, une conduite intérieure très simple qui attendait à quelques numéros de là. Mais pas pu voir s'il y avait quelqu'un dans la voiture, mais en tout cas, j'ai pu prendre son numéro au vol et le voici. 3127 RD6. « Bien, » approuvait le Chatelanc. « Et quelle direction a pris la voiture ?»« Celle du boulevard Saint-Germain. » »« Alors, ce qui donne à penser, » dit Chantecoq, comme s'il parlait à lui-même, « que notre homme va opérer cette nuit sur la rive gauche, probablement du côté de Montparnasse, à moins que ce ne soit dans quelque ministère ou ambassade, où il y aurait quelques fêtes. » « Ah, justement, » interrompit Lérémy, « il y a ce soir une grande réception au ministère du Commerce. »« Ah ah !» ponctua le grand limier. « Il serait peut-être intéressant d'aller faire un tour de ce côté. »« Malheureusement, nous ne sommes pas en habit. »« Nous ne pourrons pas pénétrer dans les salons et voir si l'homme à la barbe blanche s'y trouve. »« Il est possible aussi, » émettait le directeur de la police judiciaire, « qu'il opère à la sortie des invités. » « Non, cela ne me semble guère probable, » reprit Chantecoq. « Maintenant, surtout depuis un certain temps déjà, l'alarme a été donnée. Oh, il doit se tenir sur ses gardes et agir avec une certaine prudence. Mais aussi, je crois qu'il vaut mieux, toute réflexion faite, attendre ici tranquillement son retour et le happer au passage. Oui, je suis tout à fait de votre avis, acquiesce l'Hérénie. Pourtant, je crois que nous ferions bien de ne pas avoir l'air de l'attendre, déclarait Chantecoq. Nous allons donc nous promener de long en large en laissant notre ami Météore le soin d'attirer notre attention sur cet homme à barbe blanche dès qu'il reparaîtra. Mais je crois en effet que c'est le plus sage, approuvait le policier officiel. Et tandis que Météore continuait à faire le guet, Chantecoq et l'Hérénie se mirent à déambuler le long du trottoir. Ah, ça, mon cher, dit le premier au second. Mais pourquoi semblez-vous préoccupé? Ben, je me demande si cet homme à barbe blanche est bien le professeur Courtil ou bien l'un de ses complices. Et sur quoi vous basez-vous pour résider ainsi? Bien, sur le fait que votre secrétaire a aperçu très peu de temps avant notre arrivée la silhouette du professeur derrière ses rideaux, ce qui semblerait a priori indiquer que ce n'est pas lui qui, tout à l'heure, est monté dans ce taxi. Et pourquoi? Ben, s'il en était ainsi, nous nous sommes certainement rencontrés quand nous montions chez lui. Mais la maison peut avoir un escalier de service, objectait judicieusement Chantecoq. En tout cas, déclarait monsieur le directeur de la police judiciaire, il aurait eu vivement fait se camoufler. Vous savez, reprenait le roi le détective, que c'est pas très long de se coiffer d'une perruque et de s'adapter une barbe au menton, surtout lorsqu'on a l'habitude. Oui, c'est fort juste. D'ailleurs, je suis d'avis que, dussions-nous rester ici plusieurs heures, nous ne devons pas abandonner notre faction. Mais j'allais justement vous le proposer, déclarait Chantecoq. Vous êtes toujours très fort au piquet? Questionnait monsieur Lérénie. Oui, je joue de temps en temps, répliqua Chantecoq. Je crois que je n'ai pas trop oublié. C'est dommage qu'il n'y ait pas un café aux alentours. Nous aurions pu utiliser ainsi nos loisirs. Et Chantecoq répliquait en souriant. Oh, j'eusse pas demandé mieux que de me faire battre ou même de vous battre. Même mon flair me dit que nous n'attendrons pas très longtemps le retour de l'homme à la barbe blanche. Il est déjà près de 11 heures et d'après les recoupements que j'ai faits, le tueur de femmes n'assassine jamais après minuit. Alors attendons ce retour, s'écria le directeur de la police judiciaire. Et avec un accent de gravité mélancolique, il ajouta. Quand on pense qu'en ce moment le misérable est peut-être en train de piquer mortellement de nouvelles victimes, et que nous sommes là, tous les deux, impuissants à le désarmer. Et Chantecoq faisait observer. Oui, j'avais bien pensé à vous demander de téléphoner à la préfecture de police, d'envoyer en toute hâte des agents au ministère du Commerce, en leur donnant le signalement de l'individu en question, mais j'ai tout de suite réfléchi que c'était peine perdue et qu'ils arriveraient trop tard. S'il y a crime, il doit être en train de se consommer. Bon, j'ai eu la même pensée que vous, déclarait l'Hérénie. Et je dois dire que je suis vite arrivé à la même conclusion. Rien à faire qu'à attendre les événements, ou plutôt notre bonhomme. Une demi-heure environ s'écoula. Les deux amis n'avaient cessé de déambuler dans la rue et avaient fini par échanger les propos qui n'avaient plus rien de commun avec l'affaire à laquelle ils s'étaient attachés d'un commun accord. Et tout à coup, au moment où ils se rapprochaient du numéro 37, Météore se précipita vers eux et leur dit « Voilà la voiture qui revient, je la reconnais, c'est elle, j'en suis sûr. » Une conduite intérieure stoppait à quelques numéros avant d'arriver à l'immeuble occupé par le professeur Courtil. Quelqu'un en descendit. Ce n'était nullement l'homme à la barbe blanche, mais un personnage complètement rasé, vêtu non pas d'une redingote et coiffé d'un chapeau melon noir, mais habillé avec un complet veston et portant sur sa tête un feutre noir, mou gris à ruban. Et comme il avançait vers le 37, Chantecoq, qui n'avait pas aperçu, ainsi que ses compagnons qui se dissimulaient eux aussi dans l'anfractuosité d'une porte cochère, reconnut aussitôt le professeur Courtil. À voix basse, il dit au directeur de la police: Ne bougez pas et laissez-moi faire. Traversant la chaussée, il rejoignit le savant au moment où celui-ci tirait sur le cordon de la sonnette. Bonsoir, mon cher professeur, lança-t-il d'une voix involontairement cordiale. Courtil eut un léger tressaillement, puis se retournant, il fit, reconnaissant le grand limier: Oh, tiens, c'est vous, monsieur Chantecoq. Est-ce par hasard ou venez-vous me voir? Bon, je venais pour vous voir, dit le roi des détectives en appuyant sur ces mots. Il se passe des choses que vous devez ignorer certainement, et je suis venu vous les apprendre. Mais lesquelles donc? Bien, le tueur de femmes a recommencé ses exploits. Le plus naturellement du monde, le professeur Courtil répliquait: Oh, il fallait nous y attendre. La concierge s'était décidée à tirer le cordon. La porte de l'immeuble s'ouvrait et le professeur Courtil tendait la main à Chantecoq, manifestant ainsi son intention bien arrêtée de prendre congé de lui. Mais le roi des détectives insistait. Ben, j'aurais voulu avoir, monsieur le professeur, une conversation avec vous à ce sujet. Bon, ce soir, il est bien tard, éluda le savant. Mais demain, reprenait Olivier, il sera peut-être encore trop tard. Sans le moindre embarras, Courtil reprenait en fixant bien dans les yeux son interlocuteur. Mais là, c'est donc un entretien immédiat que vous voulez avoir avec moi. Oui, monsieur le professeur, si toutefois je n'abuse pas. Et Courtil répliquait: Non, non, vous n'abusez pas. Bien que j'ai l'habitude de ne jamais me coucher plus tard que minuit, oh, je suis tout disposé à faire une exception en votre faveur. Je vous en sais un gré infini, déclarait Chantecoq. Et d'un ton redevenu aimable, le savant répondit: Bien, veuillez me suivre. Le roi des détectives n'hésita pas un seul instant à emboîter le pas au professeur. Celui-ci, ayant appuyé sur la minuterie, la lumière se fit dans l'escalier, qu'ils escaladèrent tous les deux sans prononcer une parole. Ils atteignirent le palier du deuxième. Monsieur Courtil introduisit une clé dans la serrure de sa porte, qu'il ouvrit et referma, après avoir fait passer Chantecoq devant lui. Tout de suite, il alluma l'électricité et fit entrer directement le roi des détectives dans son cabinet de travail. Avec beaucoup de courtoisie, il lui indiqua un siège sur lequel Chantecoq s'installa et il prit place lui-même sur un fauteuil devant sa table encombrée de paperasses et de livres. Monsieur Chantecoq, fit le professeur. Je vous écoute. Le grand limier se rendait parfaitement compte de l'importance de la partie qu'il allait jouer. Il s'agissait en effet pour lui ou d'arracher des aveux à celui qu'il croyait coupable, ou de provoquer de sa part certains gestes équivalents à des aveux. Jamais encore accusé n'en était l'objet d'un interrogatoire plus prenant, plus habile, plus serré. Chantecoq attaquait. Monsieur le professeur, voici en deux mots l'objet de ma visite. Peut-être l'ignorez-vous, mais en ce cas, je suis venu vous l'apprendre. Le tueur de femmes a fait de nouvelles victimes. Et ainsi que je vous le disais tout à l'heure, je l'ignorais absolument, déclarait Courtil d'un air imperturbable et sur un ton dont nul n'aurait pu mettre en doute la bonne foi. Eh bien, voici, reprenait le roi des détectives. Ce soir, à 20 heures, la femme d'un haut fonctionnaire des finances et celle du président du conseil d'une grande société d'assurance ont été assassinées. L'une à 20h, avenue des Champs-Élysées, l'autre à 21h, avenue de la Grande Armée. Ah, vraiment ? Scandale le savant. Mais ce n'est pas tout. Et tout en fixant dans ses yeux le professeur, qui soutint son regard avec une candeur désarmante, le roi des détectives martela. Mais ce n'est pas tout. Il y a une demi-heure à peine, à une réception offerte par le ministre du Commerce, le tueur de femmes a encore opéré. Cette fois, Conti ne put retenir un léger tressaillement. Mais comment le savez-vous déjà ? Questionna-t-il en exprimant le plus vif étonnement. Shortcock n'était pas homme à se laisser surprendre. Il possédait d'ailleurs au suprême degré l'art d'éluder les questions embarrassantes. « Mais vous ne me croyez pas ? » s'écria-t-il. Et avant que le professeur ait eu le temps de protester, il s'emparait du téléphone et lançait d'un ton péremptoire. « Donnez-moi de suite le ministère du Commerce, affaire urgente. » Chantecoq devait certainement exercer sur le personnel du téléphone une influence irrésistible et due à un fluide spécial, dont il voudra peut-être bien, pour l'apaisement de nos nerfs, nous donner un jour le secret. Toujours est-il qu'il obtint presque instantanément la communication. Tout de suite, il lança dans l'appareil de sa voix claironnante. Ici Jacques Bellegarde, rédacteur au Petit Parisien. Veuillez me donner le chef de cabinet de Monsieur le ministre, ou à son défaut l'un de ses attachés. Tandis qu'il attendait son interlocuteur au bout du fil, Chantecoq lança un coup d'œil en biais au professeur. Celui-ci, très calme, du moins en apparence, ne semblait guère devoir apporter l'attention à ce qui allait se dire. Il contemplait le plafond d'un air ennuyé et réprimait des bâillements successifs qui démontraient qu'il avait un urgent besoin de sommeil et qu'il attendait, non sans une certaine impatience, le moment où il pourrait aller se coucher. Et une voix lançait à l'autre bout du fil. « C'est vous, monsieur Bellegarde ?»« Oui, parfaitement. » Ici monsieur Delahaye, chef adjoint du cabinet de monsieur le ministre du Commerce. Très bien, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Mais trop heureux, monsieur Bellegarde, si je puis vous être agréable. Je vous remercie. Est-il exact que le tueur de femmes ait commis, au cours de la réception du ministre, un nouveau crime ? Ah, dites deux. Ah, vraiment ? S'exclama le roi des détectives en passant le second récepteur à M. Courtil, qui d'un geste nonchalant s'en empara et l'appuya contre son oreille. Le sous-chef du cabinet continuait. « Bon, ce n'est pas une seule victime qu'a faite le misérable, mais deux, et deux femmes charmantes. Madame Belmont, la directrice de la revue littéraire « L'art de la pensée », et la femme du docteur Derwell, qui vient d'être nommé agrégé à la faculté de médecine. » Et le fonctionnaire prononçait nerveusement. « Mais nous nous demandons comment ce misérable a pu s'introduire. » Mais, brusquement, la communication s'interrompit. Chantecoq n'en réclama pas le rétablissement. Pour l'instant, du moins, il n'en demandait pas davantage. Son flair ne l'avait pas trompé. Maintenant, il en était entièrement convaincu. Il avait devant lui le tueur de femmes. La bataille suprême allait s'engager. « Vous voyez, mon cher maître, dit le limier au professeur, je ne me trompais pas. Oh, vous avez en effet un prodigieux don d'intuition, déclarait le savant. » Lentement, Chantecoq articulait. « Oui, je t'ai renseigné, trop tard malheureusement, pour empêcher l'exécution de ces deux nouveaux forfaits. Mais suffisamment pour être fixé maintenant sur bien des choses. » Est-ce que vous connaîtriez le coupable? Interrogeait Courtil, sans la moindre émotion apparente. Oui, je le connais, fit Shortcock. Et avec un étrange sourire, il ajouta. Oui, je crois que vous le connaissez encore mieux que moi. Mais je ne comprends pas, fit le professeur, sans se départir un seul instant de son calme. Dites plutôt, reprenait le limier, que vous ne voulez pas comprendre. Brusquement, le professeur Courtil se leva, et tandis qu'une flamme, qui pouvait être aussi bien provoquée par l'indignation que la colère, s'allumait dans ses yeux, et il martela. Oh, ça, monsieur Shortcock, est-ce que vous auriez la justice et la prudence de me soupçonner? Tout autre que le roi des détectives n'eût point manqué d'être vivement impressionné par cette virulente apostrophe, et eût certainement perdu en partie et peut-être en totalité le sang-froid absolu que commandaient les circonstances. Mais le grand limier était de ceux qui savent toujours rester entièrement maîtres d'eux-mêmes. Et sans rien laisser apparaître de ce qui se passait en lui, il se confronta d'articuler « Non, mon cher maître, je ne vous soupçonne pas !» En répondant de la sorte, Shortcock ne mentait pas. En effet, il ne soupçonnait pas le savant, puisqu'il avait la conviction que c'était bien lui, le tueur de femmes. Tous les recoupements qu'il venait de faire ne pouvaient laisser subsister en lui aucun doute. La vérité, il la possédait intégralement. Courtil avait fait disparaître sa femme parce qu'elle l'avait trompé. Cette effroyable épreuve avait achevé de troubler sa raison, déjà si éprouvée par l'odieux ostracisme, l'abominable mise en quarantaine dont il avait eu à souffrir de la part de ses camarades. Et peu à peu, il avait laissé une idée fixe envahir son cerveau, celle de devenir une sorte de justicier mystérieux qui se chargerait d'infliger aux femmes infidèles le châtiment effroyable que, selon lui, elles méritaient. Il avait mis des années à exécuter son projet. Soit que, malgré toute sa science, malgré tout son véritable génie, il n'eût pas trouvé la formule dont il avait besoin pour ses exécutions, soit qu'il eût éprouvé, très vraisemblablement, de grandes difficultés pour établir une sorte de service secret d'information qui devait lui permettre de frapper à coup sûr. En tout cas, Shortcock en était persuadé. L'assassin, ou plutôt le fou, était bien l'homme qui venait de se dresser devant lui. L'éclat de son regard, le rictus de sa bouche, la crispation de ses poings, la pâleur de son visage et jusqu'au son rauque de sa voix ne pouvaient que le renforcer dans son opinion. Mais il lui manquait encore la preuve matérielle dont il avait besoin pour livrer cet homme à la justice. Cette preuve, il ne pouvait l'obtenir que par des aveux ou par la découverte d'objets probants ou de documents accusateurs. Comprenant qu'il n'obtiendrait rien par la violence, il se dit que pour lui arracher son secret, il fallait avoir besoin de mettre son service de son flair, toute la ressource de son habileté et de son expérience. Le professeur, que l'adroite réponse de Shortcock avait visiblement rassuré, reprenait sur un ton qui laissait percer une certaine pointe d'inquiétude. « Monsieur le détective, puisque vous ne me soupçonnez pas, pourquoi prétendiez-vous, il n'y a qu'un instant, que je connaissais aussi bien et même mieux que vous le tueur de femmes ?» Cette question, si directe, si dangereuse, et qui prouvait qu'en dehors de son idée fixe, le professeur avait conservé toute sa lucidité d'esprit, ne parut nullement gêner le célèbre policier. « Mon cher maître, reprit-il, ce soir vers 10 heures, je suis venu sonner à votre porte. Personne ne m'a répondu. Avec une certaine vivacité, Courtil soulignait. Rien d'étonnant cela, cher monsieur. Ma servante était déjà couchée, et le sommeil a pour résultat de décupler sa surdité déjà considérable. Quant à moi, j'étais sorti. Finement, le limier insinuait. En êtes-vous bien sûr, mon cher maître? Mais oui, répliqua le savant, que le roi détective amenait peu à peu, insensiblement, à engager le fer avec lui. Et tout de suite, avec la plus déférente des politesses, il poursuivit. Oh, je crois que vous commettez une légère erreur. Avec une certaine nervosité, le professeur s'exclamait. Mais je crois que c'est vous, plutôt, qui vous trompez. Non, mon cher maître, insistait courtoisement le roi des détectives. Après avoir regagné la rue, j'ai instinctivement levé les yeux vers vos fenêtres. Et derrière l'une d'elles, j'ai fort bien reconnu votre silhouette. J'ai même eu l'impression très nette que vous étiez en train de vous coiffer d'une perruque et de vous coller une fausse barbe au menton. Moi ? S'écria le savant. Une fausse barbe ? Une perruque ? Mais pourquoi diable voulez-vous que je me sois affublé ainsi de ces postiches ? Oh, je crains, monsieur Shadcock, que votre imagination de détective ne vous entraîne un peu trop loin. C'est impossible, après tout, feignait de concéder le fin limier. Mais alors, je vous serai reconnaissant de bien vouloir éclairer certains points demeurés encore assez obscurs en mon esprit. Lesquels ? S'exclamait Courtil. Il ne s'apercevait pas qu'il s'engageait de plus en plus dans une passe d'armes au cours de laquelle il risquait de s'enferrer à chaque instant. « Procédons avec ordre et méthode !» déclarait Shadcock, qui sentait que maintenant il dominait de plus en plus son interlocuteur. « Mais je dois commencer par vous dire que depuis le moment où je suis descendu chez vous, après avoir vainement sonné à votre porte, l'entrée de votre immeuble n'a pas cessé un seul instant d'être l'objet d'une rigoureuse surveillance. Et j'ai acquis ainsi la certitude qu'en dehors d'un homme âgé à barbe blanche, personne n'en avait franchi le seuil. De deux choses l'une, vous vous êtes resté chez vous, ou vous en êtes sorti camouflé. Or, vous n'êtes pas resté chez vous, puisque je vous ai vu rentrer. Donc vous êtes l'homme à la barbe blanche. » Coincé par ce magistral raisonnement, Courtil néanmoins se défendait. « Mais qui vous dit, monsieur Shadcock, qu'il n'y ait pas d'autre issue à cette maison, et que cette issue, j'ai très bien pu la prendre pour sortir ? Alors pourquoi n'avez-vous pas reprise pour rentrer ? Mais je ne dois rendre compte de mes actions à personne. » Oh, c'est l'argument que j'ai souvent entendu employer par des gens qui, ainsi que vous, avaient un puissant intérêt à dissimuler le dessous de leur existence. Mais, monsieur Shadcock, je vous avertis que vous commencez à mettre ma patience à bout. Pourquoi ? Et vous cherchez à me duper ? Moi ? Oui, vous. Et comment cela ? Et tout à l'heure, vous m'affirmiez que vous ne me soupçonniez pas d'être le tueur de femmes. Mais je suis prêt à vous le répéter. Alors, j'ajouterai simplement que je suis sûr que vous êtes l'homme à la barbe blanche. Et quand cela serait ? Quand cela serait ? Répétait Shadcock avec un sourire d'une ironie aiguë. Mais quand cela serait ? Mais cela prouverait de la façon la plus claire, la plus péremptoire, la plus indiscutable, que j'avais raison non pas de soupçonner, mais d'être sûr que c'est vous l'assassin de toutes ces malheureuses. » Une lueur terrible flamba dans les yeux de l'homme traqué qu'était le savant. Et d'une voix tremblante de menace et non de peur, il martela. « Prenez garde, monsieur Shadcock, prenez garde. » À quoi ? En ce moment, vous êtes à ma merci. Oh, je crois que c'est plutôt vous qui êtes à la mienne. Nous allons bien voir. » Et le roi des détectives, qui avait vu Courtil quelques secondes auparavant plonger la main dans l'un des tiroirs entrouverts de sa table, étendit le bras vers lui, comme s'il voulait l'empoigner au collet. Mais avec une promptitude effarante, Courtil lui saisit le poignet et lui fit une piqûre à l'aide d'une aiguille que, subrepticement, il avait prise dans le tiroir. Chantecoq s'effondra lourdement sur le parquet, immobile, la bouche entrouverte, l'œil fixe, les narines frémissantes. Le savant contempla sa nouvelle victime, qui semblait avoir été instantanément foudroyée par le toxique qu'il venait d'infiltrer en lui. Puis il gagna le fond de son bureau, ouvrit une porte qui donnait dans une sorte de cabinet noir qui n'avait pas d'autre ouverture. Il revint ensuite vers Chantecoq, qui observait toujours une rigidité cadavérique, et l'empoignant par les pieds, il voulut le traîner jusqu'au cabinet. Mais il ne s'enfuit pas loin. En effet, ressuscitant tout à coup et se redressant tel un diable sortant d'une boîte, le roi des détectives assommait à moitié son adversaire d'un redoutable direct du gauche à la mâchoire, et tout en le retenant dans ses bras, afin de l'empêcher de choir, il le transportait dans le cabinet noir, et sans issue, l'y enfermait à double tour, en ayant soin de laisser la clé dans la serrure. Cette besogne accomplie en moins de temps qu'il n'en faut pour la décrire, Chantecoq se précipitait vers la fenêtre qui donnait sur la rue et l'ouvrait toute grande. Puis se penchant au dehors, il lança un « hop » retentissant qui fit lever la tête à M. Lérénie et à Météor. Ceux-ci, conformément aux directives du maître, avaient continué à monter une garde vigilante devant la maison du professeur. D'un geste significatif, le fin limier les invita à le rejoindre, ce qu'ils firent aussitôt. Chantecoq leur ouvrit la porte et les accueillit par ces mots. « C'est fait. J'ai la preuve que c'est lui et je le tiens. Suivez-moi. » Le roi des détectives les conduisit aussitôt dans la chambre où venait de se dérouler la scène que nous avons décrite. « Il est là !» fit le policier privé en leur désignant le cabinet noir. Et il ajouta « Oh, j'ai mis knock-out, mais il vaut mieux prendre nos précautions. » Il s'arma de Browning qu'il prit dans la poche de son veston, et s'approchant de la porte du cabinet, il colla son oreille contre le panneau. Aucun bruit ne se faisait entendre. « Oh, il ne doit pas être encore revenu à lui !» murmura Chantecoq. Néanmoins, avec la prudence qui le caractérisait, il tourna tout doucement la clé dans la serrure. Comme la porte grinçait sur ses gonds, le limier eut un cri de colère. Le réduit était vide. Le professeur Courtil avait disparu.